Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Dimitri Delacroix, le directeur du département recherche de la société MJ Innov qui distribue et commercialise la Tovertafel en France. On va parler de la relation qu'il peut y avoir ou qui pourrait y avoir entre les robots et les personnes âgées, notamment les personnes âgées les plus désorientées, par exemple en EHPAD. Alors salut Dimitri, merci de participer au podcast.
Merci à toi, bonjour Arnaud, ravi de pouvoir échanger avec toi.
Bah ouais, sur un sujet un peu polémique, donc ça va être marrant. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors moi, donc Dimitri Delacroix, je suis chercheur en sciences humaines. J'avais un premier parcours au départ en management, en fait, lié à une école de commerce. Et en fait, j'avais découvert la sémiotique, la sémiologie, en fait, qui est l'étude du sens, des significations, des signes qui nous entourent. Et en fait, ça ne m'avait pas passionné à ce niveau-là. Alors, au départ, c'était plus en communication, marketing, dans le management. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux vraiment poursuivre cette discipline, en fait, qui réunit à la fois la psychologie, la sociologie. Voilà, au final, on est tous confrontés au sens, à ce processus de signification, par rapport à tous les éléments qui nous entourent, qu'ils soient humains, non humains, les couleurs, le son, l'ambiance, l'environnement. Donc, en fait, j'ai poursuivi cette thématique-là à l'Université de Limoges, en fait, dans un doctorat. Donc en sémiotique, donc en sciences humaines, qui était en fait au sein d'une chaire e-santé bien vieillir, donc, qui nous rejoint sur notre thématique, où à la fois il y avait le côté bien sûr médical porté par le CHU, l'aspect technique, donc l'école d'ingénieurs, l'aspect sciences humaines, moi où j'étais rattaché, l'aspect aussi formation, qui était très intéressant parce que l'idée c'était aussi de former des profils un peu hybrides entre le médico-social, mais aussi des gens sur la domotique, d'essayer de faire aussi croiser les regards. Donc en fait, sur ce parcours-là, donc moi j'ai validé une thèse, un doctorat sur la relation en fait homme-machine, homme-robot dans le vieillissement, dans l'accompagnement du vieillissement, pour comprendre comment les robots pouvaient s'inscrire. Il y avait cette grande question qui est toujours là, comment on pouvait les utiliser, comment ils s'inscrivaient, quelles relations en fait on devait développer. Donc le premier champ au départ, la thématique c'était celle-ci en fait.
Ok. Et du coup, alors, pour rentrer tout de suite dans le sujet, je ne sais pas si on peut y répondre comme ça, mais est-ce que du coup, le robot peut concrètement améliorer la relation, l'interaction avec les hommes, avec les personnes les plus vulnérables ? Et si oui ou sinon, peut-être si oui, quel type de robot en fait ?
Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours ces fantasmes-là. En fait, c'est vrai qu'au niveau du robot, on a été dépassé déjà par la science-fiction. Donc on a déjà en fait l'environnement un peu dans l'imaginaire. Et c'est vrai que moi j'étais confronté à ce fantasme-là, mais la réalité on l'avait pas encore vraiment. Il y avait quelques développements, mais qui restaient beaucoup dans les labos. Donc en fait on en parlait beaucoup, mais quand on questionnait les gens en disant est-ce que tu as déjà interagi avec un robot, est-ce que les personnes âgées, pas tellement. Et en fait il y avait, après on va le discuter, mais c'est vrai qu'en recherche on a forcément un parti pris, une vision. Donc c'est vrai qu'il y avait ce développement-là où je trouvais qu'il n'y a pas forcément de choses concrètes et en fait on avait beaucoup de fantasmes. Donc en fait quand on est allé sur le terrain, en fait il y avait vraiment ce développement du faire le robot à l'image de l'homme, le robot compagnon, et en fait il y avait vraiment cette question-là à se poser de comment il va vraiment s'inscrire. Donc en fait c'était de le rappeler en fait que c'est un objet technique comme un autre, de comprendre son inscription. Donc moi, pour prendre un exemple très concret, dans le cadre de ma thèse, en fait pour le confronter avec des personnes âgées, en fait, on a fait programmer les personnes âgées elles-mêmes qui présentaient des troubles cognitifs, le robot. Donc, en fait, elles construisaient un spectacle robotique sur 20 séances pour avoir une création. Elles étaient vraiment actrices. Et en fait, l'objet robot, l'objet technique robot, devenait un objet médiateur. Donc, en fait, pour déjà répondre à cette question-là, c'est de considérer déjà que le robot, c'est un objet comme un autre, en fait. Même le terme robot, on pourrait débattre dessus, c'est qu'il a une forme humanoïde où il a des fantasmes, mais en fait, c'est un objet classique, en fait. Certes, avec certaines particularités, mais en fait, il va pouvoir répondre à cette question-là quand on l'a inscrit comme un objet normal, en fait.
Ouais, en fait, on parle de robot, mais c'est un terme spécifique, mais en fait, on pourrait parler d'un objet. Et du coup, on pourrait faire le même sujet sur est-ce qu'on peut avoir une relation
avec un objet.
Exactement. Et ce qui est très important par rapport à ça, c'est tout à fait, t'as tout à fait raison. Et en fait, alors moi j'ai un parti pris au niveau auteur, c'est Simondon, en fait, pourquoi le dire? C'est qu'on a eu toujours cet aspect, il y a les technophobes, grosso modo, la technique, la technologie, ça va détruire l'humanité, et les technophiles à l'opposé, où bah, tout va se résoudre. Et en fait, je pense que c'est une situation, en tout cas pour mon parti pris, intermédiaire. En fait, la technique a toujours existé. Et en fait, on parle de nouvelles technologies, mais c'est une évolution. Parce qu'en fait, un objet qui nous paraît maintenant dénué de sens ou autre, la machine à tisser pour prendre cette révolution-là qui a eu lieu, en fait, en son temps, elle a impacté énormément. Donc, chaque objet technique impacte énormément. Et en fait, ça a toujours existé. Donc, de vouloir l'évacuer de notre relation, en fait, il existe les relations humaines et les relations, en fait, aux objets techniques. C'est ni bon ni mauvais pour le dire comme ça, mais c'est de la façon dont je les intègre, en fait.
Ouais. Du coup, on peut dire concrètement que l'objet, peu importe qu'il soit un robot humanoïde ou un outil ou n'importe quoi, dans tous les cas, ça peut être un vecteur de lien social. Et est-ce que tu as des exemples du coup concrets ou comment vous avez travaillé ce sujet-là?
Voilà. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est que par rapport à ça, c'est ce vecteur-là. En fait, le problème, par exemple, du robot, c'est qu'il arrive déjà. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de penser la relation. Donc, la relation entre humains, la relation avec les objets, en fait, ça fait un triangle, en fait. Il faut toujours les penser ensemble. Mais quand le robot, par exemple, quand on va le penser comme le meilleur ami de l'homme, parce qu'on va le mettre au même niveau que l'homme, ben là, il va enfermer, en fait, la relation. Donc, c'est toujours penser les objets. Est-ce que ça s'inscrit dans une pratique? Alors, si on parle du soin, de l'aide-soignante, de l'animatrice, du directeur, ou alors de sa pratique à soi des familles, c'est est-ce que ça s'inscrit vraiment dans une pratique, dans une dynamique, et est-ce que la personne va pouvoir s'approprier l'objet et, entre guillemets, en faire ce qu'elle veut. Si, en fait, les ingénieurs ou les entreprises, on pense l'objet avant et qu'il est fermé, qu'il n'a pas de possibilité qu'on se l'approprie, en fait, à la limite qu'on le détourne, qu'on le fasse sien, en fait, c'est ça qui est important, ben c'est là où, en fait, l'objet ne va pas remplir son rôle. Et en fait, moi, dans mes premiers constats au niveau du robot, ben, c'est ce problème-là qu'on avait. Parce qu'on imaginait déjà l'objet, ça sera forcément ça, on fait le développement des algorithmes avant et il faudra qu'ils puissent répondre aux gens. Mais en fait, derrière ça, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose. Il peut y avoir des bugs aussi techniques, etc. C'est comment, au final, l'objet, il s'ouvre et il crée de la relation, en fait.
D'accord. Alors, comment, moi, là, ce que je me demande, c'est comment un objet peut créer de la relation, tu vois? Est-ce que c'est juste un moyen intermédiaire, un médiateur, ou est-ce que c'est réellement, et c'est là où on voit l'humanoïde, en fait, le robot, de se dire... une relation, pour moi, la relation, ça va être beaucoup la discussion, en fait, et de se dire, je vais pouvoir parler, échanger, partager des choses, en fait. Souvent, c'est comme ça qu'on entend la relation, hein, même si j'imagine que ça peut être beaucoup plus large. Mais du coup, c'est là où la question de se dire, en fait, ça, c'est purement humain, échanger, partager. Comment le robot peut le faire?
Voilà, exactement. Et c'est ça, en fait, je pense, le problème, c'est exactement ce que tu décris, c'est que dans cette relation-là, comme on la conçoit, la relation homme-machine ne peut pas être comme la relation humain-humain. Parce qu'au final, dans ce qui va se passer avec nous, on va avoir la chair, on va avoir de l'ironie, il y a des choses qui se passent. Donc ça, en fait, de vouloir le reproduire avec une machine, ce n'est pas possible. Mais par contre, pour des gens, voilà, on a des contraintes, on parle de personnes qui ont des troubles cognitifs, ben, à un moment donné, la relation, elle peut être cassée. Ben, en fait, ça va être un détour. Donc comme tu dis, ça va être un objet médiateur qui va permettre de recréer un ailleurs. Donc ça peut être de l'imaginaire, ça peut être de l'humour, ça peut être un support pour construire quelque chose, mais en fait, vouloir créer une même relation entre la machine et l'humain, je pense que c'est voué à l'échec et c'est ce qu'on veut. En tout cas, il y a une tendance qui veut développer ça, où on dit, bah, il y a le robot empathique, il y a le robot humanoïde, il va vous comprendre. Bah, là, je pense qu'on est en effet dans ce robot compagnon-là qui est voué à l'échec et qui n'est pas bon, entre guillemets, aussi pour l'humain, en fait. Parce qu'il n'a pas ce rôle-là de médiateur d'aller emmener quelqu'un d'autre, en fait. Et grosso modo, avec le numérique ou les robots, je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre la relation juste connecter les gens. Ça, c'est quand on va penser les choses avant. Bah oui, on a mis les gens en relation. Donc oui, on les a connectés via un robot où ils parlent au robot, il y a de l'échange. Mais en fait, on ne voit pas ce qui se passe réellement. En fait, la relation, il faut aussi qu'il y ait une résonance, que ça nous transforme, entre guillemets. Ah, je ne sais pas, ça nous fait rire, ça nous emmène ailleurs, ça amène de l'imaginaire, ça recrée un milieu pour la personne qui présente des troubles. Peu importe si c'est un milieu fictif, même peu importe, voilà, qui prend du plaisir, on passe un bon moment. Donc c'est ça la relation, c'est l'impact qu'elle a. Si c'est juste connecter les gens, oui, ils sont en relation, mais en fait il ne se passe pas grand chose. Donc pour moi, la relation qui se crée avec les objets, c'est si ça permet d'amener quelque chose d'autre, en fait.
D'accord.
Entre humains, entre guillemets.
Ouais, on distingue bien ce robot, par exemple, ça pourrait être en fait ma tablette avec, avec Skype ou Zoom ou un autre, qui du coup va créer du lien social, mais du coup qui est finalement un intermédiaire pour la relation entre deux personnes.
Exactement.
Où je pense que là, il n'y a pas de problème. Je pense que là, on est tous d'accord pour se dire que bah oui, c'est le téléphone, en fait. On favorise le lien social. C'est un objet, on ne va pas parler de robots. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu, ou peut-être même imaginé, parce qu'on ne les a pas réellement vus apparaître, tous ces robots humanoïdes, ils existent, mais ils sont plus dans une logique de service. Ça veut dire que c'est le robot qui, je ne sais pas, c'est la télécommande domotique qui va me permettre de baisser automatiquement ou avec une reconnaissance vocale, de faire des choses. Mais du coup, j'ai une relation, une interaction, mais qui n'a pas la prétention d'être une relation humaine.
Exactement. Et en fait, on a beaucoup parlé des robots humanoïdes, mais au final, nous, on est une machine quand même très complexe. On voit qu'il vaut mieux différents dispositifs, allez, pour le dire comme ça, robotisés, moi, je vais dire objets techniques, mais prenons le terme, qui vont en effet avoir des spécificités particulières. Mais quand on a voulu faire le robot à notre image, ben, en fait, faire la marche, c'est très compliqué. Faire le mouvement de l'épaule, c'est très compliqué. Donc, en fait, si on veut répliquer la machine, pareil qu'elle nous écoute dans un environnement où il y aura du bruit, eh ben, là, on peut tester. Des fois, avec Alexa ou d'autres systèmes, ben, la reconnaissance vocale n'est pas non plus évidente dans des situations qui sont hors labo. Si j'ai 4-5 personnes qui parlent autour ou alors j'articule pas bien, je vais avoir des problèmes. Donc, en effet, quand on veut penser la relation homme-machine, juste centrée sur la relation homme-machine, parce qu'en fait, on veut répondre à des exigences techniques où on va dire, bah oui, ça va nous gagner du temps, on va pouvoir répondre au robot. S'il n'y a pas d'ailleurs, je pense qu'il y aura un problème. Et en fait, on le voit dans les objets techniques qui fonctionnent, c'est si ça s'inscrit dans la durée. Une fois que j'ai passé le côté un peu waouh, est-ce qu'à un moment donné, ça facilite le quotidien bah, de toutes les parties prenantes, de toutes les personnes, quoi, que ce soit la personne âgée, que ce soit l'équipe, que ce soit la famille, et que je n'ai pas le système technique qui ne vienne pas m'imposer des choses, en fait.
Ouais. Du coup, on a quand même pas mal répondu au sujet assez rapidement. C'est de se dire que l'interaction machine, elle existe, que l'objectif, c'est de favoriser le lien social, mais en étant un intermédiaire, et de jamais, ou en tout cas, pas pour le moment, remplacer la personne. Voilà, malgré tout, du coup, ça laisse quand même pas mal d'opportunités, puisqu'on sait que l'isolement des personnes âgées et des personnes fragiles, c'est un vrai sujet. Moi, j'avais deux questions là-dessus. Tu as dû y être bien confronté. C'est qu'on parle de machines, on parle d'objets, on parle de technologie et d'innovation, mais on considère que la personne âgée, ce n'est pas son truc, ce n'est pas sa génération, et que potentiellement, elle ne va pas s'adapter à la technologie.
C'est vrai qu'il y a vraiment ce stéréotype et peut-être un constat, mais encore une fois, je trouve que ça venait de ce qu'on avait débattu juste avant. C'est une conception en fait qu'on a un peu a priori. Parce qu'en fait, on veut imaginer un objet technique ou un robot, et à un moment donné, on va voir certains industriels qui vont dire « Ah, de toute façon, la personne, elle ne sait pas faire. » Et en fait, quand on commence à dire ça, c'est que l'objet, on ne lui a pas laissé la liberté de s'approprier par quelqu'un. Si au final, nous, en tant que concepteurs, on va commencer à dire « La personne ne sait pas faire », non, c'est nous qui n'avons pas su faire en sorte que l'objet s'adapte. Et en fait, quand on regarde les personnes âgées, si on fait un constat, mais elles ont connu beaucoup plus de choses que moi, là, celles qui sont en EHPAD en ce moment, en termes de révolution, même d'objets techniques depuis qu'elles sont nées, quoi, grosso modo, elles sont nées dans les années 30, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans l'aviation, etc., c'est pas
tout
le même monde.
Ouais.
Tout a changé.
Plusieurs fois même.
Exactement. Et en fait, si on arrive, en fait, il faut le penser en termes de milieu, c'est-à-dire comment l'objet s'inscrit. Grosso modo, si ça répond à cette relation, comme disait, de lien social avec les autres personnes, à mon quotidien, à me faciliter, elles vont s'adapter. Par contre, si ça les enferme dans un usage spécifique, parce qu'en fait, on les a pris en tant qu'objet de soins, entre guillemets, ou on les a pris comme un portefeuille, ou on les a pris comme un… Voilà, on peut les réifier, les mettre comme en tant qu'objet. Là, oui, elles ne vont pas s'adapter parce qu'on les met dans un usage spécifique. Mais si ça s'inscrit dans leur usage, pour moi, l'adaptation de la personne âgée, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, c'est une adaptation mutuelle entre la technique et la personne, en fait. Je crois qu'il y a un vrai problème dans le fait qu'on pense les choses un peu en amont. Nous, là, ce qu'on essaye de travailler avec le département recherche d'Emgino sur les différents produits, mais aussi différentes approches en fait, de qualité de vie, c'est déjà d'avoir aussi une démarche interdisciplinaire, Dans le département de recherche, on a un chercheur en santé, un chercheur en sciences de l'éducation, un chercheur en data science, moi en sciences humaines. Donc, on essaie déjà de collaborer parce qu'en fait, il faudra des points de vue différents. C'est un peu pour répondre à cette question-là, de dire on n'a pas une seule vision, on a des professionnels de terrain qui nous font monter les choses. Et c'est comment, en fait, ça va s'inscrire dans ce milieu-là, en fait. Et c'est toujours en adaptation, en fait.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est aussi cette logique d'innovation et de technologie qui doit surtout répondre à un besoin, à une problématique, et faire attention, je le vois parfois, mais de ne pas vouloir utiliser une technologie pour les personnes en se disant « je vais leur adapter ça, ça va être bien pour eux ». Et c'est le plus gros risque que finalement, ça ne prenne pas parce que bah, les gens, en fait, ils n'ont rien demandé et puis on n'est pas pile poil dans leurs besoins.
Exactement. Et derrière, tu prenais tout à l'heure l'exemple du téléphone. Bah, en effet, c'est un super médiateur au niveau social. Mais en fait, quand on regarde en trame de fond, bah, on se rend compte que l'objet téléphone en lui-même, bah, il va servir différentes finalités. Donc, c'est aussi casser la finalité de l'entreprise ou à la limite que l'entreprise soit aussi claire au niveau des abris qu'ils font. Mais grosso modo, le téléphone, il est devenu un objet de captation de l'attention. C'est aussi le développement de toutes les entreprises, Google et autres. C'est comment rester le plus longtemps possible. Donc, ouais. En fait, on voit que là, il a un côté où il enferme. C'est-à-dire que si moi, je ne détourne pas son usage, je serai en capacité, si on regarde chacun notre téléphone, d'être 9 heures dessus ou 8 heures, et pareil pour les enfants. Donc, c'est en fait, quand on va regarder dans un niveau plus profond, c'est toujours considéré aussi, je dirais, un objet qui fonctionne bien, c'est qu'il soit compréhensible à tous les niveaux. Qu'est-ce que le concepteur a voulu faire? Comment il a été construit? Le niveau un peu algorithmique qu'on ne voit pas forcément, parce qu'en fait, il y a un programme, donc il y a toujours une volonté derrière de quelqu'un. Et enfin, le dernier usage, c'est celui qu'on voit, nous, l'interface qu'on a avec lui. Mais l'interface qu'on a, en fait, c'est vraiment le résultat des trois niveaux précédents, en fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, la notion de détournement d'un usage. C'est vrai que moi, je pensais le téléphone, tu vois, le téléphone à l'ancienne, même filaire, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, le téléphone, aujourd'hui, c'est le smartphone. Et il a plus réellement la vocation de connecter deux personnes et de se parler. On est sur les réseaux sociaux, en fait, avec un usage qui a complètement évolué.
C'est ça par rapport à l'usage. En effet, c'est souvent les niveaux en fait, inférieurs, si on dit qu'il y a trois niveaux par rapport à la conception de l'objet au niveau algorithmique, parce que maintenant, en fait, tous les objets, grosso modo, vont devenir robotisés, pour prendre ce terme-là, mais objets techniques, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre un algorithme dans une chaise et grosso modo, voir si je suis bien positionné, si combien de temps je suis resté, etc. Donc, en fait, ce niveau-là, il est hyper important. Et en effet, le dernier usage qui est notre interface, et souvent, on voit que l'échange final. Mais en fait, il est régulé par le reste, en fait. Donc, comme tu disais, par rapport au téléphone, je pense qu'on a une autre vision du téléphone, en fait. Donc, ouais. Comment je vais pouvoir, moi, le détourner, en fait. Et chaque objet est le même. Pour prendre l'exemple du robot, dans mon expérimentation présente lors de ma thèse, au départ, ce robot-là, il était humanoïde, il était robot compagnon, c'est le meilleur ami. Ben, on l'a détourné pour en faire autre chose. On a créé un collectif autour. Les aides-soignantes ont redécouvert aussi les personnes âgées parce que, grosso modo, on a souvent une vision aussi déficitaire de la personne. Ah ben, on voit que sa maladie, que ce qu'elle peut ne pas faire, entre guillemets. Et en fait, l'idée des objets, c'est aussi de pouvoir réintroduire une vision plutôt, ce qu'on pourrait appeler les capacités. En fait, il reste plein de choses. Les personnes, elles peuvent encore faire plein de choses. Donc, c'est pouvoir leur donner cette chance-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire d'autres choses. Et notre vision, en fait, change aussi, en fait.
Et du coup, là, sur l'exemple de ta thèse, vous êtes parti d'un robot qui avait quelle fonctionnalité pour arriver à quelle fonctionnalité à la fin?
Exactement. Donc là, c'était le robot, en fait, qui s'appelle Nao. C'est un petit robot humanoïde de 60 cm qui avait été créé par l'entreprise au départ Aldébaran et maintenant qui s'appelle SoftBank Robotics. Et au départ, eux, c'était plutôt un objet de recherche, mais l'idée, c'était vraiment construire un robot humanoïde, donc normalement qui peut interagir et autres. Mais en fait, quand on se rend compte de ça, quand on le sort de la boîte, en fait, il fait rien. En fait, si on le fait, comme on disait, bah, il marche très lentement, il parle si on le programme avant. Donc, il y avait eu beaucoup d'expérimentations où ce qu'on appelait le magicien d'Oz, c'est-à-dire on programmait avant, on le programmait, puis on le faisait interagir avec une personne pour le faire en face à face. Ça, c'était les expérimentations classiques. Mais je trouvais que ça enfermait. En final, bah, à quoi ça servait? Bah, en fait, pas grand-chose. Donc, nous, on s'est dit, bah, avec cet objet-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, l'idée, c'est ça, c'est de recréer du lien, recréer aussi des choses que les personnes peuvent faire au niveau créativité et autres. Donc, en fait, on a mis en place des séances qui alternaient séances, on va dire, robotiques, donc là où elles programmaient. Donc, on avait pris le logiciel de l'entreprise. Et en fait, le robot humanoïde, là, il avait cet avantage, c'est qu'on pouvait bouger le bras pour le programmer. Ben, là, il doit, je sais pas, montrer le ciel parce qu'on parlait de ciel, etc. Il le programmait. Et une deuxième partie où on faisait des ateliers musicaux, où ils enregistraient leur propre voix pour conter l'histoire. Et à la fin, au bout de 20 séances, on avait l'aspect où ils enregistraient leur voix, donnaient l'intonation, donc on retravaillait. Le fait de faire écouter la voix à la personne elle-même, des fois, ils avaient oublié, où ça avait aussi un effet. Donc, il y avait un partage, c'était des ateliers collectifs de 6 personnes, plus les accompagnants. Et en fait, on avait une vraie histoire qui se construisait. Okay. Donc, pour moi, l'objet, il va être intéressant quand il arrive à construire en fait, une histoire entre les personnes.
Ouais, du coup, en fait, le robot humanoïde était devenu finalement l'objet d'activité en fait pour les résidents et d'un travail collaboratif, et finalement c'était pas le mettre en égal à égal avec la personne pour en fait créer un pseudo lien, mais finalement vous avez créé du lien entre les personnes pour construire un robot comme un jeu en fait, comme il pourrait y avoir.
Exactement, tout à fait.
Ouais, c'est cool parce que du coup ça... Pardon. Du coup, non, mais je me dis, du coup, c'est marrant parce que de la dimension, de la dimension science-fiction, on passe finalement à un truc un peu plus de jeu, très ludique en fait, et où c'est pas, même si la science-fiction, faut pas aller trop loin non plus dans le délire, mais le robot qui prend le contrôle, mais là, c'est réellement la personne qui va contrôler le robot et qui va en fait s'amuser avec, mais dans un travail de groupe.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a, deux éléments là, que tu disais qui sont super intéressants. Cette histoire de jeu, bah, tu as à la fois le jeu ludique quoi, de l'animation, mais tu as le jeu aussi, quand on dit qu'il y a du jeu au niveau mécanique, qu'il y a de l'espace, ça va être de recréer en fait, cet espace d'expression. Donc en effet, on parle de ce jeu-là donc, qui est très important, c'est comment je recrée un peu d'espace dans des situations, alors soit liées à la maladie, mais même ceux qui n'ont pas de maladie, on est tous contraints par des choses. Donc c'est comment je reprends cet espace un peu de respiration de ce jeu-là. Et au niveau du contrôle, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes au niveau du robot qui va prendre le contrôle. Quand tu regardes les scientifiques, il y en a beaucoup qui disent, en fait non, on contrôle toujours. Ben là, ça montrait cette vraie démarche de recherche comme s'ils étaient dans un laboratoire. Alors, c'est des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Ben, c'est eux qui avaient le contrôle. S'ils appuyaient sur le bouton, à un moment donné, le robot parlait, il faisait les mouvements qu'eux-mêmes avaient programmés. Donc, il n'y avait pas de falsification. Alors, est-ce qu'il y avait une compréhension totale à voir au fur et à mesure? Oui, mais il y avait toujours ce lien-là où on ne ment pas. Oui. Parce qu'après, il y a une sorte de mensonge en fait, derrière, quand on crée un peu un univers un peu falsifié, entre guillemets, quoi.
Oui, c'est ça, d'une pseudo-relation qui finalement isole plus. Et ça m'amène à cette question-là, de se dire, est-ce que mettre de la technologie dans la relation, des intermédiaires, des médiateurs, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un risque d'isoler encore plus?
Exactement.
Même avec le téléphone, tu vois, ou même avec les réseaux sociaux, parce qu'on parlait là-dessus. Est-ce qu'en fait, tu n'es pas encore plus isolé si tu passes 9 heures sur les réseaux sociaux avec le monde entier?
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où des fois, il faut être seul. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de relation, l'objet, qu'est-ce qu'il permet? Il permet une relation à soi. Donc, des fois, d'être seul, de penser, l'objet, il peut m'emmener ailleurs, on imaginait, la relation aux autres. Et il faut vraiment la penser. Alors, c'est une formule qui est peut-être pas compréhensible comme ça, mais souvent, je fais la distinction entre des êtres en relation. Donc, comme tu dis, là où, en fait, on est isolé. Parce qu'en fait, c'est pris par un parti, une technostructure, entre guillemets, sans voir le mal. Mais à nous aussi de résister, et les êtres de relation, où là, on est vraiment en relation et il se passe quelque chose. Et en effet, le risque, si on ne le pense pas bien, ces objets-là, c'est d'être en effet tous en relation tout le temps, mais sans qu'il y ait vraiment une relation, mais juste une connexion, quoi. Et qui ne nous apporte pas en tant qu'humain. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre l'humain et l'objet technique. Les deux sont très importants. Il ne faut pas non plus minimiser l'objet technique, en fait. Et l'objet technique, il est très, très important à sa place. Et il peut faire plein de choses. Mais par contre, si on le survalorise ou si on l'évite, on dit « non, il n'y a que de l'humain ». Non, c'est faux aussi. Mais c'est vraiment de le comprendre à sa place, quoi.
C'est un équilibre, comme souvent. Un équilibre à trouver et qui n'est pas évident. Et c'est intéressant, la manière dont tu le dis, c'est que finalement, il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer et garder à l'esprit que l'objectif, c'est le lien social, c'est la relation, et c'est aussi, tu l'as dit à un moment, c'est passer un bon moment, quoi. C'est ça qu'on cherche.
Et c'est ça, en fait, on voit ces éléments-là par rapport à ça, en effet.
Ok. Et du coup, alors, au niveau du département recherche MJ Innov, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as le droit de me dire, ou est-ce que tu veux me dire, sur quel sujet vous planchez en ce moment avec l'équipe, du coup, pluridisciplinaire
Voilà, donc c'est ça qui est important. Alors, il y a déjà un premier pas, c'est en effet de pouvoir déjà faire collaborer des équipes interdisciplinaires, parce qu'en effet, on le voit, déjà même en équipe, dans l'entreprise classique, mais encore plus en recherche, de pouvoir faire dialoguer, c'est là déjà où ça va être important. Donc, il y a déjà vraiment cette question-là. de se dire comment on peut collaborer ensemble et comment on peut compléter les visions. Donc, pour répondre à ta question, un des projets qu'on a, c'est vraiment voilà, sur ces interventions qu'on pourrait appeler non médicamenteuses, sur ces activités, en fait, grosso modo, les objets techniques dans l'accompagnement du vieillissement par rapport à tout ce qu'on a décrit, bah, comment ils s'inscrivent et surtout aussi comment ils s'inscrivent à long terme. Parce que ce qui est très important pour la Tower Tafel, mais aussi pour tous les objets, en fait, on n'est pas, le département recherche n'est pas focus sur un seul objet, mais vraiment sur cette approche-là, c'est aussi comment ça s'inscrit dans le long terme et comment aussi ça s'adapte. Donc, en fait, notre vraie question, ça va être de comment on va pouvoir faciliter, comment on va pouvoir appréhender cette évolution à long terme. Parce que si je mets un objet technique, que je le, en le poussant un peu, si l'objet il n'est pas tellement bien, avec un peu de sous, etc., on va pouvoir dire c'est super, on va faire des expérimentations qui sont bien. Mais comment au final il s'inscrit à long terme et aussi comment il reconfigure mon travail d'équipe, comment il reconfigure ces éléments-là. Donc nous, voilà, notre travail, c'est vraiment à la fois avec l'aspect data science, donc ce qu'on pourrait dire algorithmique, parce qu'en fait, il ne faut pas y échapper. Parce que ça apporte énormément de choses mises à sa place. Pareil sur l'aspect sciences humaines, expert métier. Donc voilà, on a vraiment ce travail-là de modélisation des approches avec des objets techniques, en fait. Comment ça peut faciliter et comment ça peut être appréhendé par tout le monde. Ouais, ça, c'est vraiment notre cœur de sujet.
C'est vraiment super intéressant. Moi, ça m'évoque plein de choses sur lesquelles moi aussi je travaille en ce moment. Mais en particulier, c'est cette notion d'inscrire les outils dans le long terme. Surtout quand on parle d'innovation, parce que on va considérer que l'innovation, voilà, la difficulté, c'est de la faire, de l'intégrer. Intégrer, ça ne veut pas dire adopter, c'est-à-dire juste rentrer dans l'établissement. Mais en fait, c'est que le début et c'est même pas le début parce que ça n'a pas encore commencé. Tu vois, une fois que la solution, que ce soit n'importe quoi, l'idée, c'est après comment on va faire évoluer les pratiques. Alors, dans les établissements de santé, il y a tout cet aspect management en fait, et conduite du changement, puisque en général, on va compter sur les équipes pour s'approprier l'objet, le faire vivre et justement l'inscrire dans la durée. Mais il n'y a pas que ça non plus, puisqu'après, l'idée et la finalité, c'est que ce soit les résidents, les personnes, les usagers qui en bénéficient et qui l'utilisent eux-mêmes, en fait, et avec le maximum d'autonomie dans l'idéal. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'il faut vraiment avoir cerné le besoin. Mais on le sait, et c'est là où c'est marrant, parce que tu disais au départ que tu avais commencé dans le marketing, et je pense que du coup, ça doit t'aider pas mal parce que c'est un sujet sur lequel aussi je me suis penché récemment. Et finalement, le marketing, il y a beaucoup de connotations négatives, mais finalement, c'est l'idée aussi que tu peux avoir un super projet. Si tu ne sais pas le communiquer, si tu ne sais pas le vendre, mais dans le sens de l'appropriation, ton bon projet, tout le monde s'en fout et profite à personne, quoi.
Exactement. Et ça, on le voit réellement, c'est dire aussi que la relation d'une personne, comme on disait tout à l'heure, en fait, qu'est-ce que c'était la relation? C'est aussi une relation, en fait, nous, sur quoi on étudie notre parti pris du département en recherche, c'est aussi d'étudier la relation, mais qui est la relation à l'environnement. Et comme tu dis, c'est une relation aussi au collectif. Donc, c'est vrai que pour la personne âgée, si les équipes ne savent pas, si on n'a pas réussi à communiquer aussi sur l'objet, aussi sur le processus, qu'il n'y a pas ce collectif qui se fait, ben, ça ne marchera pas, en fait. Donc, certes, c'est pour les personnes âgées, mais à chaque fois, il y a tout le monde impliqué, entre guillemets. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que de pouvoir communiquer, même après, entre nous, de communiquer avec les différents partenaires, c'est essentiel. Et c'est ça qui est important, en effet.
Oui, carrément. Et puis, vous avez quand même un super outil d'étude avec la Tower Tafel, qui est quand même une appropriation qui marche super bien, en fait. Et ce qui permet de passer aux étapes suivantes assez rapidement et d'évaluer et de comprendre aussi ce qui fait que les gens se mobilisent, s'intéressent et restent, on va dire entre guillemets, impliqués dans le projet. Parce que tu disais, il y a un effet waouh, il y a toujours un effet nouveauté qu'il faut passer en fait. Alors c'est bien, ça aide, mais après c'est comment on va plus loin. Et c'est vrai que dans les établissements de santé, c'est jamais évident. Moi j'ai un souvenir, un truc qui m'a marqué où sur mes premières années, j'avais pu acheter en fait un matériel innovant, en fait, bon, qui était une douche au lit, donc pas forcément innovant et pas forcément très fun, mais qui répondait à plein de problématiques qu'on avait. Et du coup, j'avais pu l'avoir, la mettre en place, mais je l'avais fait un peu dans mon coin. Et un jour, je l'ai retrouvé rangé dans une réserve, encore emballé, au bout de quelques mois. Je me suis dit à la fois, sur le coup, j'étais dégoûté, et puis après, je me dis en même temps, ouais, mais en même temps, c'est aussi de ma faute, parce qu'à quel moment j'ai accompagné, j'ai vendu le projet à l'équipe. Du coup, là, on est sur interaction entre marketing et management. Et voilà, et comment les gens l'ont perçu. Et ça, c'est super important, quoi.
Ah oui, et c'est vrai que ça fait des vrais blocages. Et une fois qu'il est intégré, comme tu disais, c'est que le début et qu'il n'y a qu'un seul début, déjà en amont, mais après, l'impact ça, et puis de vraiment écouter chaque acteur, parce que c'est eux qui vont le porter, en fait. Si on n'a pas envie de porter l'objet, parce qu'à un moment donné, il nous crée des contraintes, et en fait, chaque objet technique va aussi nous créer des contraintes, donc il faut toujours aussi faire cet équilibre, en fait. Et parfois, une fois qu'on fait un peu notre sauce, c'est vrai un peu de notre côté, c'est un peu des fois ce que font les entreprises sans prendre le terrain, ben on voit qu'à un moment donné, on se prend un mur à quelque part, en fait, parce qu'on l'a un peu imaginé de notre côté, et en fait, on ne l'a pas laissé ouvert, en fait. Hein, je trouve cette formule-là aussi, des objets fermés et des objets ouverts, ça ne veut pas dire de tout connaître de l'objet, mais c'est dans quelle mesure, à un moment donné, il va pouvoir parler à tout le monde. Et c'est ça qui est important, parce que si je le ferme, que ce soit moi dans mon projet, quand je l'introduis, ou même dans la conception de l'objet, bah, à un moment donné, c'est là où on voit que ça grippe. Et comme tu disais, c'est vrai qu'avec MJ Nov, on a un super objet qui est la Tower Tafel. Et en fait, nous, ça fait vraiment un point de départ qui est essentiel pour explorer plein d'autres sujets, en fait. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait venir à MJ Nov en me disant, bah, quand je décrivais dans ma thèse que pouvait être un objet médiateur intéressant, bah, je trouvais que la Tower Tafel, en fait, répondait à ces critères, mais surtout aussi pour la suite, en fait, dans l'inscription de la durée. Parce qu'elle va permettre aussi d'amener d'autres réflexions ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est important. Et si on arrive à échanger tous ensemble, c'est là-dessus où l'objet va être intéressant, en fait.
Ouais, avec cette difficulté entre la spécificité aussi, de se dire à un moment, il faut que ça réponde à des problématiques précises, parce que c'est la notion généraliste spécialisée, tu vois, ça marche aussi avec le médecin, de se dire à un moment, c'est bien d'avoir une approche globale, mais c'est bien aussi d'avoir une approche spécialisée. Et c'est vrai que c'est des remises en question constantes pour savoir en fait où on se situe, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire. Et là aussi, ouais, la Tower Tafel, c'est un bel exemple quand on voit que finalement, elle a été conçue pour les personnes âgées et que finalement, ça marche aussi pour plein d'autres publics. Avec à l'époque les jeux conçus pour les personnes âgées, ça marchait quand même avec des publics plus jeunes. Maintenant, ça a été respécialisé pour d'autres publics, ça marche encore mieux. Et c'est vrai que c'est super intéressant quoi, de voir ces
Et voilà. Et
évolutions, ces remises en question.
c'est parce qu'en fait, pourquoi, à mon avis, ça fonctionne, c'est qu'en effet, elle va pouvoir réunir un moment donné, en fait, créer une situation. Et si les objets, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la douche, en te disant, bah, c'est peut-être pas hyper innovant, mais en fait, c'est les exemples types qui sont super. Parce que parfois, on parle d'objets un peu fantasques, mais en fait, l'objet technique, le robot ou cela, ça va être les objets très concrets. Et comme tu disais, qui répondent vraiment à un besoin spécifique qui vont être appropriés, en fait. Donc, parfois aussi, on fait un classement des meilleurs objets techniques ou autres, où je vais mettre le plus de numérique et autres. Non, ch chacun a la même valeur, parce qu'en fait, à un moment donné, il va s'inscrire dans la situation. Et c'est ça qui va être hyper important. Et comme tu disais, pour la Tower Tafel, pour les personnes âgées, pour des adultes ayant des besoins spécifiques ou alors des enfants, ben en fait, c'est qu'on va créer une situation qui va réunir les personnes. Et quand moi, je me mets autour de la Tower Tafel, quand le directeur de l'EHPAD va se mettre autour de la Tower Tafel, l'animateur, ben en fait, il n'y a plus une position a priori de qui je suis. Et en fait, il y a un moment de partage, en fait. Mais ça peut être pareil pour la douche, un moment de partage parce que il est hyper important. Ça peut être des petits moments, voilà, peu importe lesquels. Et en fait, l'objet, il doit répondre à ça. S'il ne répond pas à ça, c'est là, en fait, où on se prend le mur, même au niveau de la philosophie du développement des techniques en ce moment, en fait, de certaines entreprises, quoi.
Carrément. Parce que c'est un sujet compliqué, mais en quelques mots et en essayant de simplifier, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est comment se déroule un programme de recherche? Tu vois, parce que je dis en ce moment parce que ça m'évoque les vaccins, tu vois, on va faire des essais cliniques, des trucs et tout. Comment vous fonctionnez pour avoir justement cette notion de rigueur scientifique sur des sujets comme ça assez compliqués en fait?
C'est vrai que voilà, tu parlais des vaccins, c'est une des priorités, ça va être déjà le temps long. Donc c'est vrai qu'il y avait le temps médiatique et autres, voilà, pour reprendre cet exemple-là, où en fait il faut quand même aussi s'inscrire dans la durée. Donc c'est vrai que quand on veut commenter pour les vaccins ou pour les recherches des choses à court terme, c'est là le problème. Donc déjà, le programme de recherche, c'est quelque chose qui se met déjà sur long terme, qu'il faut pouvoir débattre, où en fait il faut aussi pouvoir créer ces espaces de discussion, où entre guillemets on peut tout dire. Si j'explique pourquoi je dis ça, À la limite, tu peux contester avec des arguments externes. Donc, il y a déjà cette démarche-là. Donc, c'est déjà, entre guillemets, aussi une certaine philosophie, une démarche de recherche à ce niveau-là. Après, d'une manière très concrète, on va considérer un programme de recherche quand on apporte quelque chose. Donc, en fait, il y a quand même une nouveauté. Donc, en fait, grosso modo, on fait ce qu'on appelle une revue de littérature. En commerce et autres, on va dire de la veille sur ce qui se passe, parce qu'en fait, on est toujours en lien, au final, avec ce que les autres ont fait. On fait toujours une continuité. Donc, ça, c'est déjà très important parce qu'on va partir de ce qui est existant. Et après, quand je dis apporter une nouveauté, c'est qu'on va aller creuser un pas de plus par rapport à ce qu'on a constaté. Mais en recherche, une réponse, elle est souvent, même dans 80% des cas avant que ça fonctionne, négative. Donc, la réponse, en fait, au départ, ce n'est pas négatif. Ça ne fonctionne pas parce qu'on apporte quelque chose, on fait un pas de plus, donc c'est nouveau. Donc, c'est normal qu'on se prenne un peu des murs. Donc, en fait, déjà, une réponse négative est déjà une bonne réponse, qu'on a apporté des choses, on a éclairci. Donc, ça, voilà, dans les objectifs de la recherche, c'est qu'on va avoir de la créativité, on a une démarche systématisée. Donc, voilà, on fait une revue de littérature, on apporte, on débat, on échange, on essaye d'avancer plus loin, on mêle le plus possible de personnes. Et après, bah, par rapport à ces questions-là qu'on pose, en fait, ça répond à quelle question je pose. Parce que souvent, on pose des mauvaises questions. Donc, en fait, la recherche, souvent, c'est de trouver la bonne question. Parce que je peux bien me poser une question, mais si c'est la mauvaise, je vais y répondre, mais ça n'a pas de sens, en fait. Donc, en fait, le but du programme de recherche, c'est ça, c'est de poser la bonne question. Comme on disait tout à l'heure du robot, bah, au final, à quoi il sert vraiment? Bah, il faut peut-être que j'aille un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est la relation sociale, par exemple. Et quand j'ai compris, entre guillemets, ou que j'ai posé la question de qu'est-ce qu'est le lien social, je vais peut-être pouvoir commencer à y répondre par rapport aux objets. Et après, une fois qu'on a cette question-là, on va mettre en place ce qu'on appelle un protocole d'observation, d'expérimentation sur le terrain pour évaluer. Donc là, pareil, il y a différentes méthodes quantitatives, qualitatives, donc soit avec beaucoup de données, soit en observant, pour voir l'évolution par rapport à des hypothèses. Par rapport à la question qu'on s'est posée, on a des hypothèses et on va vouloir les vérifier. Donc voilà un petit peu le processus du programme de recherche. Et après, une fois qu'on a des résultats, ils sont publiés. Et de nouveau, ils sont remis en débat. Quelque chose qui ne peut pas être contesté, qui ne peut pas être débattu et qui ne peut pas être poursuivi, c'est qu'on veut donner une réponse toute faite. Donc non, ce n'est pas le but. On acte à un moment donné et c'est ça qui est intéressant.
Okay. Et vous, du coup, sur ces fameux éléments de recherche et tout ça, vous êtes en lien comment avec les établissements, avec le terrain, avec les établissements médico-sociaux? Exactement. En fait,
nous, on veut vraiment développer une pratique de recherche-action. Donc, c'est exactement ce que tu décris, c'est de dire ça vient du terrain. Et grosso modo, le terrain est partie prenante de ces recherches-là. Donc, en fait, nous, on a un suivi régulier avec les différents établissements qu'on a pour aborder tous les sujets. Donc, en fait, on a déjà une émergence de sujets, de problématiques qui viennent du terrain liées à ces échanges-là sur la qualité de vie, grosso modo, de la personne au travail avec les familles. Donc là, il peut y avoir des problématiques qui émergent. Et quand ces problématiques émergent, on a un tissu d'établissement qui, il faut qu'ils le souhaitent, participer à ces programmes de recherche, donc sur des thématiques spécifiques, sur le lien social, sur la réminiscence, sur l'activité physique. Voilà, on a différents sujets d'études. Donc ça, c'est au niveau du terrain. Donc en fait, le terrain, il sera toujours là et ça vient du terrain. Donc grosso modo, on a vraiment cette démarche de co-conception par rapport à ça, parce qu'en effet, après, on peut être à côté et en lien, parce qu'au final, chacun a la même valeur. On va avoir des relations avec des établissements universitaires pour avoir cette reconnaissance et cet approfondissement avec des spécialistes qui vont venir dialoguer avec les personnes de terrain, avec des hôpitaux qui vont pouvoir aussi mettre en place ces protocoles de recherche, et nous, avec notre labo en interne, pour pouvoir vraiment dialoguer, en fait. Et après, on s'inscrit sur un temps assez long d'échange, en fait.
Hop. Ce sera super intéressant de rediscuter donc d'expérimentations précises, notamment sur des sujets d'innovation un peu ambitieuses ou un peu polémiques, comme les robots humanoïdes ou d'autres choses, mais qui sont en réalité surtout ambitieuses, et c'est ça qui est intéressant. Je pense que la question, c'est, comme tu disais, c'est pas bien ou mal, c'est comment on va l'utiliser, et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Parce qu'après tout, si ça apporte des choses intéressantes pour les équipes, et que c'est pertinent et positif, en fait, ce serait tellement dommage de s'en priver, quoi.
Exactement. Et donc, ce sera avec grand plaisir, comme je disais, c'est un peu un temps long, mais de se retrouver prochainement, en 2022, là, on devrait avoir... pas mal de surprises et pas mal de découvertes liées au programme de recherche qu'on a mis en place. Donc, par rapport à ces apports, comme tu disais, ce serait génial de pouvoir de nouveau échanger.
Carrément. Et parce que il faut se dire aussi qu'en plus, tout ce qui est innovation, évolution, ça prend, ça a évolué bien, mais là, ça, je pense qu'on prend aussi un virage encore plus exponentiel sur tout ce qui peut tourner sur l'innovation, les startups, la silver economy, tout ce qu'on veut, même l'innovation et le plan numérique en santé, en fait, qui peut apporter pas mal de choses sur, voilà, sur des nouveautés.
C'est tout à fait ça. Puis c'est vrai qu'au niveau, alors nous on le pratique sans forcément le dire, au niveau de l'éthique, c'est qu'en fait avoir cette démarche pluridisciplinaire aussi avec les établissements et en fait en parlant un peu d'éthique de la relation, c'est ce que tu disais au niveau du numérique en santé et autres, ça questionne en fait des sujets très profonds de la donnée, des données des personnes, de qu'est-ce qu'on en fait, de comment elle est prise, est-ce qu'elle peut être gardée. C'est pour ça quand je disais aussi ce côté appropriation des équipes, c'est à un moment donné comment aussi je transfère la connaissance, c'est-à-dire qu'on a fait un objet technique, il y a tout un écosystème numérique, parce que maintenant quasiment tous les objets vont avoir cet écosystème numérique, mais comment je donne aussi les clés aux établissements ou au personnel même à pouvoir au moins comprendre. On ne demande pas qu'elles soient des ingénieurs et autres, mais au moins il y a cette transparence et il y a cette collaboration en fait. Et c'est encore une fois ce côté fermé ou ouvert. Qu'on soit dans les objets, parce qu'en fait, le grand développement qu'on va avoir, quand tout à l'heure on parlait de robots, c'est qu'en fait, ça va être les objets connectés. Donc en fait, la connexion qu'on a et la relation qu'on a aux objets, c'est en fait ma seule présence. Je vais entrer dans une pièce et c'est non plus un échange en fait avec un robot, parce qu'en fait, l'échange avec un objet, il est fastidieux, il est compliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, si j'articule mal, s'il y a du bruit. Mais par contre, ma seule présence, parce qu'ils m'ont reconnu que c'était Dimitri, etc., il y a un scénario qui va se mettre en place avec tous les objets, entre guillemets, autour de moi, qui est là-dessus. Donc la vraie question, c'est comment. Je programme, soit tout est programmé a priori, et comment je laisse aussi une liberté et de l'appropriation, et aussi une réflexion en fait de qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là pour pas non plus enfermer les gens dans un cadre précis. Donc en fait, la relation qu'on aura aux objets, c'est aussi toute la relation qu'ils ont eux. Eux, ils vont pas communiquer en parlant, mais ils vont s'échanger des données en permanence. Et comme tu disais, bah, c'est ni mal ni bien, c'est qu'est-ce que ça m'apporte et est-ce que j'en ai conscience, et si je suis OK avec ça, c'est très bien en fait. Donc il faut pas le réfuter. Il faut l'intégrer, mais en connaissance de cause, en fait.
Oui, puis bien l'utiliser, que ce soit positif et que ce soit pertinent. La question des données, ça pose plein de questions, notamment le numérique en santé, c'est la question de l'interopérabilité, c'est la question de est-ce que les établissements vont pouvoir disposer de ces données? Est-ce que ce sera pour eux? On parlait des réseaux sociaux, c'est toute la grande question de cette collecte de données qui en fait ne va pas vers l'utilisateur. Sous-entendu, l'utilisateur en même temps, c'est un service gratuit, donc il paye avec ses données. Là, c'est différent dans les établissements, la donnée est encore plus. Doit encore plus appartenir à l'établissement. Et derrière, cette donnée brute, comment on va la raffiner, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et comment on va pouvoir ben voilà, interpréter les choses et surtout ben, construire à partir de là quelque chose de bien. Et ça pose aussi une question et un thème majeur en fait de l'accompagnement des personnes, c'est la personnalisation. Le fameux projet personnalisé et tout ça, de se dire, comme tu dis, ben, paramétrage, scénario par rapport à la personne et recentrer sur la personne pour faire en sorte que l'outil, l'environnement d'objets connectés, et ça c'est un sujet passionnant, puisse répondre aux besoins spécifiques de la personne.
Et aux besoins spécifiques, et je trouve que dans les objets, alors, via la Tortoffel, mais ou d'autres objets, où là, c'est là que je validerai en fait les objets, on ne peut pas les valider a priori, c'est aussi la personne comme je pourrais la voir aussi autrement. C'est aussi à faire attention par rapport au prisme que j'ai. Bah, j'ai un prisme médical ou j'ai un prisme recherche. La personne, je la catégorise, quoi, je la réifie, tu vois, je l'ai mis un peu en tant qu'objet. Donc si je programme par rapport à ça, bah, je vais encore alimenter ce cercle vicieux, entre guillemets. Ah, bah, elle est comme ça, donc on fait comme ça. Alors que si je la vois autrement, alors, je ne dis pas que c'est facile. Mais au moins se laisser des portes ouvertes en disant, bah, tiens, dans cette situation, c'est encore possible de faire ça. Laisser aussi cette prise de risque. Toi, tu connais bien le sujet, mais en établissement, c'est aussi, j'ai envie de dire que nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est comment on rend, moi, la relation que j'ai aux objets, c'est comment ça me permet d'être encore une personne. Alors, comment le dire? C'est, grosso modo, c'est la marche. La marche, c'est un équilibre instable. Je risque de tomber. Mais si je marche plus, ça va plus. Bah, pareil pour les personnes, il faut quand même qu'elles puissent vivre un petit peu comme elles le souhaitent. Donc, ça prend aussi cette thématique générale de la prise de risque. Si tout est trop sécurisé, si tout est trop enfermé via les objets, parce qu'en fait, ils vont le permettre avec du contrôle, avec l'observation, mais c'est comment dans ces objets aussi, je laisse cette part de liberté, de nouveauté, d'irruption, que les personnes ont besoin, en fait, parce que ça caractérise ce qu'on est humain, en fait.
Oui, bien sûr.
Cette spontanéité, quoi.
C'est toute cette notion d'éthique, en fait, qui est un grand mot, hein, mais qui revient à ça, de se dire, oui, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi et comment on garde le sens principal des choses, qui est l'accompagnement et qui est finalement, on on pourrait dire le bien-être de la personne, quoi.
Exactement.
Qui reste la finalité.
C'est ça. Et je pense que par ce prisme-là, nous, qu'on essaie de développer de la relation, voilà, qui est avec les objets, avec les personnes, avec son environnement, bah, c'est en fait, grosso modo, une prise de risque de toujours être en relation avec son environnement, quoi. Et comme tu dis, ça reprend cette question-là éthique du bien-être, en fait, de la qualité de vie, quoi. Alors que si je coupe cette relation-là ou que je l'ai pensée à la place de quelqu'un, si moi j'imagine ta relation-là, tu vas me dire, mais tu m'embêtes, quoi. Je fais un peu comme je veux, quoi. Ben voilà, on va échanger, il y a quelque chose qui se construit entre nous deux, en fait. Et c'est de garder cette construction qu'on a entre nous deux, un milieu un peu intermédiaire qui fait où chacun se sent bien, quoi. Et ouais. Des fois, on a un peu tendance à penser à la place des personnes, faire aussi à la place, et c'est comment on garde ces éléments-là, en fait.
C'est un risque, c'est clair. Eh ben écoute, merci Dimitri pour tous pour cet échange, pour ces précisions. Et ouais, non, du coup, bah, super sujet. Super sujet. Et du coup, j'espère que tu pourras nous en dire plus sur, voilà, sur des résultats de recherche, sur des choses que vous aurez découvert.
Ben voilà, on revient vite publier tous les éléments, puis échanger dès qu'on a les éléments.
Ça marche. Allez, à bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.